Bonjour Jean-Pierre Mercier.
Bonjour.
D'abord, je voudrais poser une question au délégué CGT PSA à Aulnay-sous-Bois. On sait que l'avenir est menacé. Vous aviez sorti les informations sur la fermeture du site. Il y a une réunion qui est prévue avant le premier tour de la présidentielle.
Oui, on avait menacé, les salariés avaient menacé d'aller devant le QG de Sarkozy. Le gouvernement a fait un léger recul et nous a proposé cette réunion tripartite qu'on demande depuis le mois de juin dernier.
Pour dire quoi ?
En rassemblant, on voulait mettre autour de la table l'État, Peugeot et puis les syndicats d'Aulnay pour demander à Peugeot, qui s'engage par écrit, à maintenir tous les emplois sur l'usine de PSA Aulnay au moins jusqu'à la fin 2016, c'est-à-dire qu'on termine la fabrication de la C3 et après qu'on discute l'attribution d'un nouveau modèle, parce que nous on veut absolument que cette usine elle continue à tourner, c'est notre boulot qui est en jeu, nos salaires et nos vies.
Aujourd'hui, vous ne savez pas si l'usine va continuer de travailler, de vivre.
Aujourd'hui, on est convaincu que du côté de la direction de Peugeot, ils ont décidé la fermeture de l'usine en 2014 avec le passage en une équipe en 2013. Ça veut dire c'est signé l'arrêt de mort de l'usine et nous, évidemment, on est mobilisés pour aller jusqu'au bout pour faire reculer Peugeot le plus loin possible.
Alors, Jean-Pierre Mercier, vous êtes également donc le porte-parole de Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Pourquoi on n'entend pas plus de sujets justement comme ça sur l'emploi, sur les ouvriers du secteur automobile ?
Ah, je vais pas vous attaquer, je vais plutôt attaquer vos confrères.
Merci. Bah,
parce que avec l'affaire Mera, ça a été le feuilleton épouvantable. Alors c'est évident que ça a été un drame, ça a été l'horreur cette affaire. Mais après, on en a fait des pages et des pages, et évidemment, ça occulte tous les vrais problèmes que rencontrent les travailleurs, c'est-à-dire l'emploi, les salaires bloqués et la vie qui est de plus en plus dure. Alors effectivement, nous on est vraiment là pour poser ces problèmes essentiels qui concernent les conditions de vie des travailleurs, c'est-à-dire l'emploi, les licenciements. Et il faut absolument défendre l'idée dans cette campagne électorale qu'il faudra imposer l'interdiction des licenciements à nos patrons, qu'il faudra imposer l'indexation des salaires par rapport au prix. Voilà, c'est plus possible la vie qu'on mène, qu'on nous fait mener, le fait de voir nos salaires bloqués au plancher et de voir les prix qui explosent, qui augmentent. Ça, c'est vraiment plus possible.
Ça, Jean-Pierre Mercier, vous n'arrivez pas à le dire haut et fort. Vous faites candidate fait 0,5% dans les sondages. Ce thème-là, Jean-Luc Mélenchon arrive, lui, à le faire sortir et il est à 13% dans les sondages. Pourquoi ?
Il en parle peut-être, mais en tout cas, il défend pas du tout les mêmes revendications, les mêmes idées, les mêmes axes. Nous, d'abord, la grosse différence avec Mélenchon, c'est que on dit haut et fort que les élections ne peuvent pas changer la vie du monde du travail. Ça se saurait si les élections pouvaient changer la vie, et si c'était le cas, elles seraient interdites.
Alors pourquoi êtes-vous, votre parti présente une candidate ?
Parce que on n'a aucune raison de se taire dans ces moments-là. Justement, on prend la balle au bon et on se présente. Nathalie Arthaud, en tant que communiste, se présente dans ces élections présidentielles justement pour dire que les élections ne peuvent pas changer la vie. Ce qui peut changer la vie pour les travailleurs, pour le monde du travail, ce qui peut nous protéger nos emplois, protéger nos salaires, eh bien, ça sera les luttes qu'on sera capable de mener.
La révolution.
On n'en est même pas encore à la révolution, mais vous savez, un mai 68, un juin 36, si les travailleurs reprenaient confiance, et quand ils vont reprendre confiance, quand ils seront en capacité de mener ces grandes luttes sociales, oui, on pourra changer les choses, et c'est dans ces moments-là qu'on peut faire reculer à la fois les gouvernements et les patrons.
Mais c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand il dit « le peuple doit prendre le pouvoir ».
À travers le bulletin de vote, la révolution citoyenne. Il faut ouvrir la brèche avec le bulletin de vote. C'est son créneau. C'est sa politique, c'est sa perspective. Qu'il y ait un gouvernement de gauche que lui soutiendra, ça, c'est sa perspective. La nôtre, elle est bien différente. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas dans le front de gauche.
Et c'est pour ça, quand les gens disent pourquoi vous ne fusionnez pas, vous ne vous ralliez pas à Jean-Luc Mélenchon ?
Parce qu'on offre une autre perspective. Nous, on dit que les élections ne peuvent pas changer la vie, qu'on ne peut pas attendre un sauveur suprême, qu'il soit gouvernement de gauche, qu'il soit Mélenchon, qu'il soit Hollande, Mitterrand.
Donc ça, d'accord, on l'a bien compris, vous demandez la mobilisation. Mais justement, soyons concrets. Si ce matin, tout le monde vous entend et dit... tout le monde se dit, oui, finalement, il faut une grande mobilisation et on vote pour vous massivement. Vous arrivez au pouvoir. Que se passe-t-il ? Vous refusez finalement d'entrer à l'Élysée ?
Ah, pour que Nathalie Arthaud soit élue, il faudrait qu'elle soit au deuxième tour, il faudrait qu'elle ait plus de 20, 25, 30%.
Imaginons, on y est là.
Imaginons, ça voudrait dire que dans le pays, déjà avant même ça, avant même cette élection, c'est que dans le pays, on sentirait qu'il y a une mobilisation générale. On sentirait.
Oui, mais que se passe-t-il si
Nathalie
Arthaud est élue présidente de la République ? On sait que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'entre pas à l'Élysée. Il fait la Constituante, la 6e République. Et puis, il dit ciao, je m'en vais, je vous laisse. Nathalie Arthaud, que fait-elle si elle est élue présidente
elle
de la République ?
Elle s'appuie sur la mobilisation du monde du travail. Je prends l'exemple, juin 36.
Mais elle entre à l'Élysée ?
Oui, bien sûr, pourquoi pas. Elle rentre à l'Élysée et elle s'appuie sur les mobilisations des travailleurs. Elle dit aux travailleurs, elle propose aux travailleurs, eh bien, prenez le pouvoir dans les usines, prenez le pouvoir dans les entreprises, dans les banques. Allez chercher dans les comptes des entreprises, contrôlez-les, regardez ce qui s'y passe, les bénéfices de Total, des grandes banques, de Peugeot, de Renault, où est-ce que ça part ? Allez fouiner dans les grandes familles bourgeoises, dans les grands patrons, leurs comptes privés, y compris leurs châteaux, leurs voitures de luxe, etc. Contrôlez tout, faites l'inventaire, et après, on prend tout et on fait tourner la société en fonction des besoins du monde du travail et pas en fonction du simple profit de petites familles, enfin de grandes familles, mais qui sont extrêmement minoritaires en France.
Bonjour Monsieur Mercier, je suis très sensible, bien entendu, à votre venue. Je suis issu du monde de l'automobile et je suis triste depuis des années que l'on prive le citoyen de plus en plus de l'usage de l'automobile alors qu'elle a structuré nos sociétés. C'est un instrument de liberté, d'émancipation. Qu'est-ce que vous feriez pour la première des raisons justement de privation d'automobile sur le prix du carburant ?
Le prix du carburant, la première mesure qui est vitale, eh bien, c'est de supprimer les taxes. La TIPP, la TVA, parce que c'est un vrai scandale en France, ces impôts qui sont les plus injustes, que vous soyez ouvrier, travailleur, employé de banque, vous payez le même litre d'essence que vous soyez grand patron d'une grande entreprise.
C'est une injustice terrifiante.
Injustice terrifiante. Première mesure simple et claire, on supprime la TIPP, on supprime la TVA.
Vous supprimez le quatrième impôt de l'État ?
Oui.
Et comment vous
tout
le remplacez ?
Eh bien, on le remplace par l'imposition de tous les revenus du capital. Voilà. Que ce soit les riches qui payent et pas les pauvres. Et ça serait juste. Deuxième mesure, il faudrait indexer les salaires en fonction du prix du prix du carburant et des prix en général. Ça veut dire que si les prix augmentent, les prix à la consommation augmentent, on indexe automatiquement l'augmentation des salaires. Ça se fait pour le prix du gaz par rapport au prix du pétrole, ce qui est incompréhensible pour tout le monde. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand le prix du pétrole augmente, on augmentait le prix du gaz.
C'est une question que j'ai posée directement à Monsieur Copé et je pense qu'on n'a pas eu de réponse claire.
Bien sûr, parce que c'est simplement une mesure administrative, une volonté politique. On indexe le prix des gaz, le prix du gaz avec le prix du pétrole. On fait exactement pareil avec les salaires. Puisque c'est possible avec le gaz, on fait pareil avec les salaires. Ça ils savent faire. Et puis, vous savez, la troisième mesure, il faudrait contrôler les comptes des grands raffineurs. Les grands raffineurs, aujourd'hui, ils ont explosé leurs bénéfices, ils ont explosé leurs marges. Total fait 11 milliards de bénéfices. Eh bien, il faudrait que les travailleurs, la population en général, les consommateurs, ils puissent contrôler l'utilisation de ces milliards de profits.
Le tout répressif sur nos routes, tous ces radars qui, 9 fois sur 10, se déclenchent pour de petits excès de vitesse. Quelle serait la politique de sécurité routière ?
D'abord, un constat, c'est vrai que l'utilisation des radars a fait baisser la mortalité sur les routes.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes désinformé comme tout le monde.
Non. Pas d'accord sur la seule réponse.
Juste sur le constat.
Vous, homme de l'automobile, si vous minutes, savez très bien que la principale des raisons, c'est justement l'automobile qui protège beaucoup plus avec la sécurité active et passive. Ne vous laissez pas abuser.
Je les fabrique.
On rappelle, vous êtes délégué CGT à PSA Aulnay.
Là, je suis en tant que lutte ouvrière. Mais premier constat, voilà, c'est celui-là. Maintenant, je pense que c'est de l'hypocrisie. Le tout répressif et la multiplication des radars, c'est de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'il faudrait, à la base, chez les jeunes, dans les écoles, développer l'éducation, développer la sécurité routière. J'ai 44 ans, je fais partie de ces jeunes. Quand ils étaient gamins au primaire, il y avait la police nationale ou les gendarmes qui venaient à l'école nous apprendre le code de la route. Alors, c'était en vélo, dans la cour de l'école. Il faudrait recommencer ça, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre de l'argent dans les budgets de l'éducation nationale. Et puis, il faudrait le développer, mais bien plus fort que ça. Il faudrait vraiment apprendre aux enfants l'utilisation, le code du travail, tout simplement. Le code de la route.
Aulnay-sous-Bois, votre usine est un modèle du genre, puisque dans son sein, il y a l'école de française de karting de la Fédération Auto. Chez vous, dans l'usine, j'y vais le mercredi, je sais de quoi je parle.
Sais, oui,
c'est
oui,
le premier signe de sensibilisation à l'utilisation d'un engin mécanique. Et c'est bien ce que vous faites.
Voilà, plus de formation.
C'est la seule chose positive que fait la direction.
Ça là, à bon entendeur.